un billet qui a été écouté attentivement par nos deux invités qui vont évoquer eux aussi les conséquences de la primaire de la Belle Alliance Populaire. Nous sommes en compagnie de Gérard Le Gall. Bonjour, vous êtes analyste politique, ancien conseiller auprès de Lionel Jospin de 1997 à 2002 et ancien responsable des études d'opinion au PS. Et Gérard Grimbert, directeur de recherche émérite du CNRS au Centre d'études européennes de Sciences Po. Vous avez notamment publié « La loi et les prophètes, les socialistes français et les institutions politiques ». Votre réaction, Gérard Grimbert, à cette analyse de l'aile gauche du PS par Frédéric Saïs?
Oui, en effet, c'est à la fois à double tranchant, parce que jusqu'à présent, l'aile gauche n'a jamais été vraiment au pouvoir au Parti Socialiste, en tout cas depuis la refondation d'Épinay. Il pouvait y avoir des synthèses, il pouvait y avoir des alliances entre le centre et la gauche, mais la gauche n'était pas au pouvoir. Alors je dis c'est à double tranchant, parce que d'un côté, effectivement, pour une fois, ils peuvent dire « c'est nous qui avons la main, on va enfin pouvoir faire ce qu'on veut et on nous trahit toujours, ce que si on va pouvoir le faire ». Et en même temps, ils sont dans l'obligation de faire ce que les anciens ont fait depuis 1971, c'est-à-dire de faire de ce parti qui était devenu un parti de gouvernement avec François Mitterrand, de faire un parti qui soit toujours un parti de gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des alliances et occuper un espace électoral suffisant pour gagner des élections. Et ça, franchement, c'est quand même pas joué.
Et bien, votre opinion à ce sujet, Gérard Le Gall, a-t-on assisté à la victoire, à la revanche d'Henri Emmanuelli hier soir?
Oui, ça nous ramène à 95, oui.
Mais finalement, c'était cette situation-là où on avait une aile gauche et...
Oui, avec le soutien de François Mitterrand et de Laurent Fabius. Bon, écoutez, en écoutant la matinale là, ce matin, je réfléchissais aux enseignements que j'ai reçus et à ceux que j'ai pu exercer sur l'autonomie du politique. C'est-à-dire que soit on surréagit sur l'idéologie qui étant la cause de toute chose, pour d'autres c'est l'économie, pour d'autres c'est etc. Donc moi je suis fait partie depuis 20 ans ou 30 ans des analyses de conjoncture et surtout une grande autonomie du politique, c'est ce que montre cette période à l'étranger comme en France. Alors d'abord sur Benoît Hamon, sa personnalité, bon il est d'origine rocardienne, ça a été dit. Mais quand il démissionne après Frangy, il ne souhaitait pas démissionner. N'oublions pas quand même qu'il a fait Manuel Valls pour devenir Premier ministre. Bon, c'est un petit rappel, mais qui resitue les choses sur cette notion de gauche. Le rapport au
Vous voulez dire qu'il n'est pas si à gauche que ça?
Je ne sais pas, la suite le dira. Le rapport au marxisme, bon, là c'est un peu compliqué, mais je ne sache pas qu'il fasse partie de cette école. L'économie de marché, il n'est pas contre. Le grand débat entre les frondeurs et, comment dirais-je, le reste, enfin le gouvernement portait sur, alors est-ce qu'il faut donner 40 milliards, mais à 20 milliards on signe, etc. Bon, bref, tout ça est sur l'Europe.
Frédéric
et
Saïs.
Sur l'Europe précisément, et c'est là qu'est l'un des vrais clivages, c'est que Benoît Hamon a une chose intéressante, c'est-à-dire personne n'accepte l'Europe telle qu'elle est, mais il ne ferme pas le jeu, sous bénéfice d'inventaire.
Bon, alors vous êtes en train d'expliquer que ça n'est pas Lénine, Benoît Hamon, on vous suit là-dessus, mais alors est-ce que c'est par exemple Jeremy Corbyn?
Oui, alors moi je suis spécialiste, c'est peut-être une autoproclamation, mais enfin de la vie politique française. Moi, l'abus dans le commentaire, enfin qu'il y a des références, du comparatif, du benchmarking, tout ça, je trouve ça paraît intelligent, mais en fait, chaque parti socialiste, et c'est pas Gérard Grimbert qui me contredira, et fait partie d'une culture nationale quand même, d'une histoire. Alors il y a des traits communs qui n'échappent ici à personne. Néanmoins, moi je ne ferai pas de comparaison internationale. J'essaye de comprendre la vie politique française, c'est déjà pas simple. Dans une période hyper complexe, les acteurs ne savent pas ce qu'ils font. J'allais dire parfois, je pense souvent, et quant aux commentateurs, ils ne connaissent pas exactement leur inconscient et les vertus de leurs propres propos.
Gérard Grimbert, est-ce que vous voulez trouver une rationalité à ce qui est en cours? Et alors, non pas calquer donc la situation française sur ce qui se passe à l'étranger, mais enfin, on a vu par exemple en Angleterre un parti de gauche se gauchir avec Jeremy Corbyn. Est-ce que c'est ce qui va se dérouler en France?
Bon, je vais essayer d'être conscient de mon inconscient pour répondre à cette question. Mais oui, malgré... Bon alors, bien sûr, Gérard Le Gall a raison. Bien sûr, il faut d'abord regarder ce que sont les histoires et les cultures nationales. Je suis tout à fait d'accord. Ceci dit, il y a quand même un phénomène qui est en train de se passer en Europe et dont on peut penser que c'est un phénomène général. C'est quand même l'usure de la social-démocratie. Ça, c'est incontestable. Et on la voit dans tous les pays européens. Pourquoi ? Parce qu'avec la crise, le modèle social-démocrate est très difficile à faire durer. Et du coup, on a quand même quelque chose. Et de ce point de vue-là, Hamon me fait... Il ne faut pas oublier que Hamon et certains de ses amis, depuis déjà longtemps au Parti Socialiste, ont cette idée de recomposition à partir de... Bon, le Parti Socialiste n'est plus l'outil qu'il faut pour faire tout ça. Il faut refonder. Rappelez-vous ce qu'ils ont dit sur ce qui se passe en Espagne et Podemos. Bon, je ne parle même pas de la Grèce, un cas très, très particulier. Ce qu'ils ont dit aussi de Jeremy Corbyn quand il a pris... Ah, c'est-à-dire l'idée qu'il faut refonder un vrai parti radical à gauche. Ça, c'est quand même un projet. Et je pense que de ce point de vue-là, la proposition d'alliance avec Mélenchon, dans leur tête, à eux, ça va probablement plus loin. C'est de refaire une gauche, pas la gauche qu'on a connue, mais une gauche radicale qui doit fondamentalement... Là, c'est peut-être un petit désaccord que j'ai avec Gérard Le Gall, qui quand même porte assez largement, malgré tout, sur la question économique et sur la question de comment on résout le problème de l'emploi, qui est quand même... On en a très peu parlé, d'ailleurs, dans cette primaire. C'est pas un hasard. Mais comment on peut régler le problème de l'emploi? Donc, il y a vraiment des différences. La différence en France... Alors, comment ça se traduit en France? Et je m'arrête là. Ça se traduit en France, quand même, par le fait que ça va être de plus en plus difficile de faire cohabiter dans une même organisation cette aile gauche et l'aile plus modérée.
Votre réaction sur l'inconscient du PS, Gérard Grimbert?
Je parle l'inconscient
c'est
du
vous
PS,
qu'on avait parlé.
C'est l'inconscient du commentateur, oui. C'est-à-dire...
Non, et aussi de ceux qui font l'histoire, alors, vous avez dit.
Oui, hein. Non, mais moi, juste pour l'instant, alors, on dramatisait avant ce second tour. Aujourd'hui, j'écoute la tonalité des commentaires, on relativise, etc. Donc, la rupture,
vous
la
aussi,
fin,
vous avez
la mort,
relativisé.
La mort du PS, tout ça, bon, ça fait des tribunes, mais ça me paraît pas tout à fait l'essentiel. Alors, le grand thème de la recomposition, il date de la 4e République. Je veux dire, au moins depuis la fin de la 4e République, et même d'ailleurs les rapports avec Mendès France, etc. Donc tout ça, c'est un thème lancinant. Moi, je suis un des acteurs. Enfin, il y avait le courant Cambadélis, Moscovici, Dominique Strauss-Kahn, c'était la recomposition, ça date de 10-15 ans, les Nouvelles Alliances, etc. Ensuite, Manuel Valls voulait recomposer. Il a fait plein d'interviews dans le Nouvel Observateur, lui plutôt dans le centre avec Bérou, etc. Donc c'est un thème lancinant. Reste, il y a un centre de gravité relativement indépendamment des acteurs du Parti Socialiste, qui a des élus, qui est, même s'il en a perdu beaucoup aux élections municipales, aux cantonales et aux régionales, il a un socle de base. On va voir si la raison triomphe dans les semaines à venir. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que le grand régulateur de tout cela va être, et là Gérard ne me contredira pas ou ne nuancera pas mon propos, c'est l'opinion. C'est-à-dire l'attention qui va être portée à l'opinion sur Macron, sur PS, sur les intentions de vote un peu mystificatrices dans le dernière enquête Sofres. Enfin, mystificatrices, non pas par la Sofres, c'est un astuce sérieux. Mais ce que je veux dire, il a été fait le lendemain du débat qui était porteur. Alors, moi, les analyses d'opinion, c'est la lente maturation de l'opinion elle-même et la lente maturation de l'observateur.
Frédéric Seitz, sur la comparaison entre les pays, effectivement, chaque histoire des partis socialistes ou sociaux-démocrates est évidemment unique. Il n'empêche qu'on voit, comme le disait Gérard Grimbert à l'instant, des vagues successives et des similarités selon les pays s'opérer. On a cité le Portugal, on a cité Jeremy Corbyn en Grande-Bretagne et la victoire de Benoît Hamon hier. Dans les années 2000, on avait évidemment Tony Blair en Grande-Bretagne, on avait ensuite Zapatero et on a eu Lionel Jospin, qui fait qu'il y avait une sorte d'Europe social-démocrate beaucoup plus centriste qu'aujourd'hui. Moi, je voudrais profiter du fait de vous avoir en studio, Gérard Le Gall, pour évoquer un souvenir que j'ai avec vous, que vous n'avez pas avec moi par définition, puisque c'est dans un documentaire resté célèbre sur la campagne de Lionel Jospin en 2002. On vous voit analyser les chiffres dans cette campagne qui va s'arrêter et s'avérer tragique pour Lionel Jospin, où vous dites, devant plusieurs hiérarches socialistes, attention, le risque Jean-Marie Le Pen au deuxième tour n'est pas exclu. Et là, on voit certains dans ce bureau national du Parti Socialiste, dans cette équipe de campagne, qui vous rit un peu au nez, notamment Jean-Marc Ayrault à l'époque, qui vous dit « Soyons sérieux, restons sérieux, je veux bien être ouvert à la dramaturgie, mais il faut pas exagérer, cher Gérard Le Gall. » Est-ce que, cette fois-ci, vous qui sentiez venir le danger frontiste pour le deuxième tour en 2002, et la surprise, est-ce que cette fois-ci, vous envisager qu'il y ait une surprise qui serait que Marine Le Pen ne soit pas au second tour.
Il y a cela, mais avant, sur Jean-Marc Ayrault, il me dit, je me souviens de la phrase par cœur, ça dure 15-20 secondes, il conclut « c'est une thèse de perdant ». Alors moi, pour moi, ce n'était pas une thèse, c'était je nommais un risque, hein, et de manière très cohérente d'ailleurs, je suis surpris d'ailleurs que d'autres ne l'aient pas fait au même moment, mais enfin passons sur cet aspect, et donc voilà, et moi je lui réponds, attends-tu à ce que, n'oublie pas que Le Pen a fait 15,5 en 95, qu'il y avait, comment il s'appelle, De Villiers, même si c'est pas totalement le même électorat, truc, et attendez-vous à savoir, comme Geneviève Tabouy dans les années 50, attendez-vous à savoir que Le Pen fasse 16, 17, 18%. Ça c'est clair. Alors maintenant pour revenir, on a commencé l'un et l'autre, enfin, à dire que, bon, moi j'avais employé en 2006 la métaphore de la patinoire, bon, qui est assez commode et assez populaire. Il reste que, alors, moi, sur la plasticité de l'électorat, la mobilité électorale, tout ça, c'est un thème lancinant. Gérard Grimbert a écrit des articles il y a 20 ans, 25 ans là-dessus, et qui demeure exact, mais il faut quand même relativiser en montrant que c'était déjà pointé cette réalité. Alors, est-ce que c'est possible? Moi, je vous répondrai que c'est possible. Néanmoins, ce que je crois, c'est que le mois qui vient, c'est-à-dire le mois de février, va être le temps décisif. Vous savez que dans l'histoire des présidentielles, il n'y a pas de moment décisif. Certains disent que c'est mars, d'autres...
Bon, ça change à chaque
fois. En 88, c'était un an avant. Bon, tout ça, c'est du petit commentaire. En réalité, alors là, mon intuition, c'est que si vous voulez bien qu'on prenne rendez-vous avec mon ami Grimbert, dans un mois, comme dirait l'autre, on y verra peut-être pas plus clair, mais certainement un peu plus clair.
Mais alors, d'où vient justement cette impression, peut-être fausse, vous allez nous donner votre sentiment, Gérard Le Gall, on verra dans quelle mesure cette impression est fondée. En tout cas, d'où vient l'impression que les mouvements d'opinion aujourd'hui sont infiniment plus durs à prévoir, que les sondages ne sont plus fiables, qu'à peu près tout peut se produire? Est-ce une réalité ou est-ce quelque chose finalement qui a toujours été incorporé dans votre métier?
Alors la prévision politique, c'est un sujet passionnant. Si on refait les 30 dernières années, et là, il y a un cimetière de pronostics. Bon, passons. Mais ce qui est intéressant, que disait-on au mois de novembre? Que Manuel Valls, alors en discutant avec des hiérarches, comme vous dites, et des intellectuels socialistes, dont un ami commun, Alain Bergougnou, c'était que très probablement Manuel Valls serait en tête du premier tour, mais perdrait au second. Mmh. Bon, voilà. Et ne perdrait pas avec 41%, mais perdrait 45, 48. Bon, voilà, c'était ça, ce qui est le discours dominant. Et, hommage rendu au sondage, on a vu, comme Fillon, mais dans la dernière période, le surgissement de Benoît Hamon. Il faudra analyser la non-réussite de Manuel Valls, qui était l'un des leaders de tous les baromètres il y a 2 ou 3 ans, qui c'était annus horribilis pour lui 2016 avec la loi El Khomri, avec la déchéance de nationalité, et les préventions des Hollandais, on va dire plus ou moins pur sucre, par rapport au jeu final qu'il a fait avec Bartolone d'ailleurs dans les tout derniers jours. Tout ça coûte très cher et par ailleurs, il y en a un qui a fait une campagne électorale. Il fallait voir le débat de second tour, les écologistes, le contre l'austérité, etc. Il y a eu un positionnement là et alors que Manuel Valls faisait comme s'il était à l'élection présidentielle.
Donc ça pourrait rejoindre en quelque sorte la stratégie de Nicolas Sarkozy avec des conséquences en partie comparable. L'échec d'Arnaud Montebourg, il ne vous étonne pas, Gérard Le Gall?
L'échec m'étonne par son score, le même que celui de 2011. Je pense, mais ça, la science politique pourra peut-être lever l'hypothèque ou l'interrogation, enfin, donner une réponse à votre interrogation, je pense qu'il y a eu un vote utile sur Benoît Hamon au dernier moment. C'est-à-dire que la gauche, il apparaissait plus de gauche. D'abord, dans les sondages, Benoît,
Arnaud Montebourg.
Arnaud Montebourg avait un soutien à droite. C'était très net dans les études d'opinion. Et il faudrait dire aussi, mais on n'a sans doute pas le temps, la question des primaires comme légitimation du politique, comme clarification. C'est un modèle. Moi, je ne suis pas hostile aux primaires. Je suis agnostique vis-à-vis des primaires. Toute l'emphase donnée aux vertus démocratiques des primaires, le corps électoral, la décision peut-être. Sans doute, s'il n'y avait eu que les sympathisants premier, deuxième cercle du Parti Socialiste, Manuel Valls aurait pu être élu. Simplement, elle est régulée de l'extérieur par des gens qui forcément ne voteront pas pour lui. Surtout, et on va vérifier si le coup mortel n'a pas été donné aux primaires, dans la manière avec laquelle le vaincu de la primaire va collaborer, comme c'est dans l'esprit et dans l'éthique de la primaire, va collaborer avec le vainqueur.
Et dans les engagements écrits même.
Oui, donc on va le vérifier ça.
Votre opinion à ce sujet.
Juste un mot sur la primaire, parce qu'effectivement la primaire est un objet d'étude encore très important, sur lequel il faudrait qu'on discute. Je crois que c'est vraiment important, parce que c'est une nouveauté très importante dans l'évolution du système politique. Ce que je crois en tout cas, seul élément que je discuterai ici sur cette primaire qui vient de ça, je pense que cette primaire, là, comme ça avait été le cas d'ailleurs en 2011, a énormément aidé le Parti Socialiste. Et énormément aidé...
C'est-à-dire ?
Le candidat... Il s'est créé grâce à cette primaire un mouvement en faveur d'un des deux candidats. Et qu'on en est aujourd'hui à se dire que ce candidat n'est pas le plus mal placé pour réfléchir à la manière d'organiser, alors comme il l'entend, la recomposition à gauche. Donc je pense que ça n'aurait pas... Benoît Hamon, admettons même qu'il ait été désigné par un autre mode, je ne sais pas d'ailleurs s'il l'aurait été, effectivement, je pense que ça aurait été assez difficile, mais en tout cas... Là, il y a une participation qui est plus importante que ce qu'on croyait. Elle n'est pas géniale, mais 2 millions de personnes, quasiment, ça n'est pas rien. Ça veut dire que la primaire n'est pas ratée. Certains pensaient qu'elle pouvait être ratée à cause d'un défaut de participation. Et le deuxième, c'est que ça l'a fait connaître énormément et que ça a donné un minimum de leadership, ce qui manquait au Parti Socialiste face à Mélenchon. Aujourd'hui, même si je partage tout à fait les réticences de Gérard Le Gall à trop commenter le sondage d'hier soir, mais exactement les mêmes réticences, il n'empêche que on commence à se demander qui aujourd'hui de Hamon et de Mélenchon peut gagner le rapport de force, ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois. Donc c'est simplement ce qui me fait dire que la primaire n'est pas une mauvaise chose pour les socialistes et pour le Parti Socialiste.
On va demander ça en guise de conclusion à Gérard Le Gall.
Non, les primaires ne sont pas que mauvaises. Moi j'ai dit que j'étais agnostique. Je me souviens de colloques là-dessus, non, mais c'est, toujours partagé.
Aujourd'hui, les rapports que le vainqueur, autrement dit Benoît Hamon, va entretenir avec Jean-Luc Mélenchon.
Oh, ce sont des rapports...
Je parle de rapports de force.
J'ai bien... Oui, mais la psychologie, là aussi, l'autonomie du... La psychologie contre... Jean-Luc Mélenchon a un compte à régler avec la social-démocratie. Il faut comprendre ça. C'est ça qui ordonne tout. Moi, j'étais au Conseil des ministres bis pendant la cohabitation, où il y avait un Conseil des ministres à l'Élysée avec Jacques Chirac et un Conseil des ministres bis. Moi, j'ai vu Jean-Luc Mélenchon dans une des salles que Gérard Grimbert connaît bien à Matignon. C'était un... Gentil garçon. D'ailleurs, il a dit, c'était le gouvernement le plus à gauche que l'Europe peut accepter. Donc, tout ça, c'est, il y a beaucoup de tactiques et j'espère. Alors, et si on veut projeter, il y a un problème. Il y a le problème qui a été soulevé ce matin, je crois que c'est par Gérard, sur le rôle du Parti communiste dans la période à venir. Ça va être très intéressant de voir. Ça, c'est passionnant puisque, la convention avait conditionné un moment, ses soutiens selon celui qui serait désigné par la primaire. Donc, ça, c'est très intéressant. Bon, quelle était exactement la question, pardonnez-moi.
Les rapports avec Mélenchon et la manière dont celui-ci, aujourd'hui, peut...
Alors, le grand régulateur, là aussi, le grand régulateur, ce sera l'opinion, telle qu'elle est mesurée par les sondages, et on verra s'il y a des convergences.
Merci, en tout cas, de nous avoir donné votre sentiment et vos analyses